Bonsoir à tous et bienvenue à un cours d'Ancien Testament, niveau 3, le deuxième semestre. Je me réjouis de pouvoir vous parler ce soir et je tiens à remercier le doyen du centre de méthode Stanislas et le père Jean Bobok de m'avoir invité et donné la possibilité de vous partager mes recherches et connaissances sur la Bible. Bien entendu, dans notre cas, l'Ancien Testament. Étant donné que vous êtes en troisième année et que vous avez acquis déjà une certaine connaissance au niveau des livres et du contenu des livres de l'Ancien Testament, je me suis proposé de vous parler plutôt et d'insister plutôt sur le contenu de ces livres. Bien entendu, on ne peut pas tout analyser en 4 heures, faut maximum 8 heures. Donc on ne peut pas tout analyser en 4 séances, mais on peut s'arrêter sur quelques thèmes que moi j'ai choisis, des thèmes qui pourraient nous permettre d'avancer au niveau de nos connaissances théologiques et exégétiques. Et en même temps de grandir au niveau de la foi que nous professons, que nous confessons, et de pouvoir voir plus clair en ce qui concerne notre avancement vers Dieu. Nous avons 4 séances sont prévues pour notre cours, et je voudrais vous proposer de travailler sur le texte biblique. Premièrement, le chapitre 3 de la Genèse, donc ce que je vais présenter ce soir. En fait, je me propose pour cette première séance de vous présenter Genèse 3, que j'ai intitulé Là où toi as commencé, et en même temps de vous parler sur un sujet que je tiens à cœur et que je trouve qu'on peut identifier dans l'Ancien Testament, c'est le repentir. Le repentir que moi je vois comme une coopération divino-humaine entre Dieu et l'homme dans le combat contre le péché. Deuxièmement, je me suis proposé de vous présenter Genèse 22, que j'ai intitulé Les sacrifices du désir. Ensuite, de parler de 1 Samuel 8, si on prend le texte massorétique, ou de 1 Roi 8, si on s'en tient aux 70. Et je voudrais parler là du pouvoir, ou de la tentation du pouvoir. Et enfin, le dernier cours que je me propose de détailler ici, il concerne le livre de l'Exode, les chapitres 19 à 24. Avec un regard intertextuel et un regard si vous voulez, comme un pont qui va s'arrêter dans le Nouveau Testament, dans la première épître selon Pierre. Là, le sujet que je voudrais aborder, c'est le peuple de Dieu et la prêtrise royale. Nous sommes dans un monde où on parle de plus en plus de laïcs et de prêtres, ou de laïcs et de clergés, ou de la laïcité, notamment en France, disons le lieu de naissance de la laïcité. Et je voudrais souligner quel est le point de vue de la Bible sur le sujet. Et je pense, hein, je vais pas vous dire que je vous assure, mais je peux vous dire qu'on va découvrir des choses qu'on ignorait, que la Bible nous apprend, mais que notre lecture, parfois rapide ou superficielle ou pas du tout, une lecture absente, fait que nous ne comprenons plus ce que l'Église nous a enseigné, ce que l'Église nous a appris pendant 2000 ans sur le rôle du clergé et le rôle des laïcs dans l'Église. Pour ce soir, donc, comme je vous ai dit, j'aimerais bien qu'on s'arrête là où tout a commencé. C'est le fameux épisode de Genèse 3. Tout le monde connaît cette histoire. Mais encore une fois, je tiens à ce que vous, et j'aimerais bien que vous ayez déjà fait ça, à ce que vous lisiez le texte biblique avant de proposer des solutions inadéquates. J'ai choisi de, comme je vous ai dit, j'ai choisi de travailler Genèse 3, mais en même temps, pour vous montrer qu'il y a une attente ou un regard plus posé de la part du narrateur de la Bible sur le repentir. Car le repentir, c'est pas un chapitre de la Bible, c'est pas expressément présenté, c'est pas directement dit que Dieu cherche le repentir de quelqu'un, d'ailleurs le mot n'est pas utilisé, mais dans la manière du travail de Dieu, on peut trouver, en tout cas au moins de manière di en diagonale, on peut identifier en tout cas le souci de Dieu de résoudre un problème que nous avons appelé le péché. On peut l'appeler le péché originel, mais on sait tous très bien que, en tout cas en Occident, cela peut provoquer des irritations ou même des sourires. Et donc, personnellement, je n'ai rien contre cette expression, mais je préfère celle en roumain, le péché plutôt des ancêtres. Ici encore, on est encore têtu, on dit le mot péché n'existe pas. Ça serait bien de revoir un peu d'où vient le mot péché et de recomprendre un peu pour quelle raison l'Église a parlé de péché. Et pourquoi l'Église n'a pas parlé de faute ou de déviation ou erreur ou malentendu ou... On peut proposer n'importe quoi finalement si on voudrait ne pas déranger les oreilles des personnes plus sensibles. Donc, pour notre séance de ce soir, je vais me proposer de travailler Adam et Ève, Caïn et Abel. Et je vais m'arrêter brièvement aussi sur Nathan et David. Et c'est une proposition, bien entendu. Je soumets à votre jugement et critique ou observation le fait que Dieu réalise une sorte de méthodologie. Il y a une gradation dans les actions de Dieu qui montre qu'il essaie d'inculquer aux humains cette mentalité de repentir devant le péché, devant le mal. Et dans les trois exemples que je propose, il y a, on peut trouver, moi je pense qu'on peut trouver cette action systématique de la part de Dieu. Grosso modo, je trouve que dans tout l'Ancien Testament, on a affaire à une pédagogie générale de toute l'humanité, mais dans nos cas ici précis, il s'agit d'une pédagogie individuelle qui est distribuée, qui est proposée à des individus. Alors pour les analyser, je vais utiliser comme méthode de travail l'analyse narrative. Et pour les autres séances aussi, je vais utiliser l'analyse narrative, mais aussi parfois l'analyse littéraire d'un texte. Mais pour aujourd'hui, pour ce soir, c'est le regard narratif. Parfois aussi avec un autre regard intertextuel, là où cela peut s'avérer utile. Donc l'erreur d'Adam et Ève, que nous connaissons tous sous le nom de péché originel, fait en sorte que toute l'action qui est présentée dans la Bible commence à partir de ce moment-là. Donc, quand je dis là où tout a commencé, c'est clair que tout a commencé lorsque Dieu crée la terre, l'univers. Mais au niveau de notre histoire humaine, qui nous concerne nous en fait, parce que finalement la Bible n'a pas été écrite pour nous raconter comment Dieu a créé l'univers à partir de rien, mais en même temps de nous dire que après avoir créé la Terre, après avoir créé l'univers, après avoir créé les astres et les animaux et les oiseaux et l'herbe et tout ce qui existe sur la Terre, Dieu a créé l'homme et la femme, l'humain, et que il y a eu un souci à un moment donné dans le jardin d'Éden. Alors pour que nous puissions très bien comprendre, je ne vais pas lire pour les autres textes, mais en tout cas pour Genèse 3, je vais vous lire une proposition de traduction littérale pour que vous ayez un peu la différence qui existe au niveau des Bibles qui existent en circulation actuellement. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes ou professionnelles ou bien faites. Mais parfois, une traduction littérale nous permet de voir un peu la difficulté de traduction. La difficulté, quand on a une difficulté, il faut faire un choix à un moment donné. Et donc ce choix peut être influencé ou pas, d'une manière voulue ou recherchée. Et c'est pour ça que je vous propose cette traduction. Lorsque je vais parler de Dieu dans le texte de la Genèse, on parle d'Elohim, donc ce qui est l'équivalent de Dieu, et Adonai, ce qui est l'équivalent de Yahvé, ou Jéhovah, on peut dire, mais la bonne, peut-être la meilleure manière de lire le nom de Dieu, le nom imprononçable de Dieu, c'est Yahvé. Mais justement, j'ai proposé le mot Adonai, Adonai Elohim. Et vous allez voir que parfois il y a des différences, il y a des changements au niveau de la prononciation, de l'utilisation du nom de Dieu dans ce texte. Je commence par Genèse 2, les versets 8, 15, 16 et 17. Et c'est une sorte d'anticipation qui aura des effets plus tard ou qui pourront nous permettre de comprendre mieux le chapitre 3. Donc Genèse, chapitre 2, verset 8. Et Adonai Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y mit l'humain qu'il avait modelé. Et Adonai Elohim prit l'humain et le déposa dans le jardin d'Éden pour la travailler et la garder. Et Adonai Elohim ordonna à l'humain en disant: de tous les arbres du jardin, manger tu mangeras, mais de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, mourir tu mourras. Genèse 3. Or, le serpent était astucieux, ou on peut dire aussi nu, plus que tous les vivants des champs qu'avait fait Adonai Elohim. Et il dit à la femme: vraiment, oui, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme dit au serpent: du fruit des arbres du jardin, nous mangeons, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. Le serpent dit à la femme: mourir, vous ne mourrez pas. Oui, Elohim est connaissant qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Elohim, connaissant bien et mal. Et la femme vit que bien l'arbre pour manger et que désir celui-là pour les yeux et convoité l'arbre pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et mangea, et donna aussi à son homme avec elle, et il mangea. Et s'ouvrirent les yeux d'eux, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent du feuillage de figuier, et ils prirent pour eux des paniers. Et ils entendirent la voix d'Adonai Elohim allant et venant dans le jardin au vent du jour, et il se cacha, l'humain et sa femme, loin de la face d'Adonai Elohim, au milieu des arbres du jardin. Et Adonai Elohim cria vers l'humain et lui dit: où es-tu? Et il dit: c'est ta voix que j'ai entendue dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et il dit: quel vis-à-vis t'a raconté que tu es nu? De l'arbre que j'ai ordonné de ne pas manger, as-tu mangé? Il lui m'a dit, la femme que tu as donnée avec moi, celle-là m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Et Adonai, Elohim, dit à la femme, qu'as fais-tu là? Et la femme dit, c'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. Et Adonai, Elohim, dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit es-tu plus que tout le bétail et plus que tous les vivants des champs. Sur ton ventre tu iras et poussière mangera tous les jours de ta vie. Et c'est une inimitié que je mettrai entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Lui te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. À la femme, il dit, multiplié, je multiplierai ta peine et ta grossesse. Avec peine, tu enfanteras des fils. Et vers ton avidité, mais lui dominera sur toi. Et à l'humain, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre que j'avais ordonné en disant, tu n'en mangeras pas, maudit est l'humus à cause de toi. En peine, tu le mangeras tous les jours de ta vie. Ronces et charbon, il fera germer pour toi et tu mangeras l'herbe des champs. En la sueur de tes narines, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à l'humus, car de lui tu fus pris. Car poussière tu es, et à poussière retournera. Et l'Élohim cria le nom de sa femme, vivante, car elle fut mère de tout vivant. Et Adonai Elohim fit pour l'humain et sa femme des tuniques de peau, et il les habilla. Et Adonai Elohim se dit, voici l'humain étant comme un de nous, pour connaître bien et mal. Et maintenant, de peur qu'il envoie sa main et prenne aussi de l'arbre de la vie, et qu'il mange, il pourra vivre à jamais. Et Adonai Elohim le renvoya du jardin d'Éden pour travailler l'humus, d'où il avait été pris. Et il chassa l'humain, et il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubims, et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ah, donc j'espère que cette traduction que je vous propose et qui appartient à André Wena vous a permis de mieux saisir les différences et de mieux voir quelle est la spécificité de ce récit. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que nous avons, dans cet épisode, c'est que nous avons presque tout au niveau scénique. On voit ce qui se passe et on entend les personnages parler. Nous sommes dans un décor paradisiaque et l'homme, il a la tâche unique de travailler la terre avec une seule règle, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors ici, on peut diviser l'épisode en plusieurs scènes, plus précisément sept scènes qui sont très condensées. Ce que nous appelons dans la Bible, c'est le principe d'économie narrative. On va pas raconter plein de choses ou tout ce qui s'est passé. Le but n'est pas de tout raconter, mais de raconter les éléments les plus importants. Et ici, nous avons une sorte d'intrigue linéaire. Tout se passe illotemporé, dans un cadre restreint, très bien délimité, mais impossible de postuler géographiquement par le lecteur. Nous avons seulement quatre personnages, on a en Genèse 3 notamment, on a que des dialogues et on a une sorte de structure concentrique. Toutefois, plus elle paraît simple, plus la composition littéraire est sophistiquée. Alors, dans le cadre serein de la vie édénique, l'intervention verbale d'un nouveau personnage, inconnu jusqu'alors par le lecteur, brise l'apparente monotonie de l'épisode précédent et ouvre un chemin différent de celui connu par les premiers humains et par le lecteur, celui du doute. Le serpent s'adresse à la femme. Et c'est pour ça qu'il faut bien lire le texte biblique. Vraiment, Elohim a dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin. L'emploi du mot vraiment, af, pousse Ève, pousse la femme, à comprendre l'intervention verbale du serpent comme étant une question. S'il ne s'agissait pas d'une question, alors le serpent ne faisait rien d'autre que d'ouvrir un sujet de discussion avec Ève, comme s'il souhaitait que celle-ci lui confirme ce qu'il croyait comme étant vrai. Mais en faisant cela, l'ambiguïté du sens de la phrase augmente. Étant donné que la femme qualifie d'erronée l'opinion du serpent, elle se voit obligée de la corriger. En faisant cela, l'opinion du serpent devient le piège dans lequel Ève ou la femme se laisse entrer. Et le filet du serpent fonctionne, car la femme entre dans la rhétorique du serpent pour ce qui est de la véridicité des paroles divines. La réaction du serpent face à la réponse d'Ève permet de clarifier ses intentions réelles, qui sont de douter de la parole divine. En reprenant les paroles de la réponse d'Ève, le serpent conteste directement, cette fois-ci, les paroles et les actions d'Élohim, en retournant le sens de la généreuse proposition de Adonai Elohim de Genèse 2,16. Je reprends, comme ça on suit mieux. En 2,16, Dieu dit, et Adonai Elohim ordonna à l'humain en disant, de tous les arbres du jardin, manger, tu mangeras. Donc, le commandement de Dieu, entre guillemets la fameuse interdiction divine, ce n'est pas une interdiction, en fait, elle comporte deux temps. Le premier temps de cette interdiction, si vous voulez l'apprendre comme ça, mais ou un ordre, ou un conseil, prévoit que l'homme peut manger de tous les arbres du jardin. Et faites attention, de tous les arbres. Le deuxième temps de cette interdiction dit, mais de l'arbre de connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. Même ici, si on regarde avec attention, Dieu dit de ne pas manger, mais ce n'est pas vraiment une interdiction, mais c'est plutôt un avertissement. Ne mange pas, car tu mourras. Mais le serpent, justement, ici, il joue avec les mots. Au verset 4, Genèse 3,4, le serpent dit à la femme, mourir, vous ne mourrez pas. Donc, il commence à pervertir les mots de Dieu en reprenant ce que Dieu avait dit, mourir, tu mourras, mais dans un sens positif, c'est pour le protéger. Et il dit, mourir, vous ne mourrez pas. Tout en maintenant, il nie ce que Dieu avait dit. Oui, Elohim est connaissant. Au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Elohim. Mais la réponse d'Ève, pour la première phrase du serpent, du verset 1, au lieu de clarifier, embrouille comme un peu les choses. Parce que Ève répond, du fruit des arbres du jardin, nous mangeons. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim m'a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. Alors, si on reprend les mots d'Ève, déjà Dieu, quand il dit au verset 16, qu'ils peuvent manger, il dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Ève, elle dit qu'on peut manger du fruit des arbres. Déjà, elle introduit un élément nouveau. En plus, elle dit que ils n'ont pas le droit de manger le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Mais au verset 17, on ne dit pas où se trouve cet arbre. En tout cas, quand Adonai donne l'ordre, on ne dit pas où se trouve cet arbre. En fait, cet arbre, au milieu du jardin, il y a un autre arbre qui se trouve. En Genèse 2, verset 9, et j'utilise la tobe. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance, ce qui est bon ou mauvais. On est sûr que l'arbre de vie se trouve au milieu du jardin, mais pour l'autre, peut-être il se trouvait aussi au milieu, mais c'est pas dit en tout cas, c'est pas mentionné. Alors Ève, elle a compris que cet arbre se trouve aussi au milieu du jardin. En même temps, Dieu n'a jamais dit que si vous allez toucher le fruit ou l'arbre, vous allez mourir. Ni le mot peur. C'est Ève qui interprète, c'est elle qui comprend. Dans l'analyse narrative, on appelle ça le point de vue d'un personnage. Et ici, c'est vraiment le point de vue d'Ève qui pense, de la femme, qui pense que si on touche Dieu a peur, Elohim a peur que ils vont mourir. C'est pour ça que le serpent, verset 4, il dit tout de suite, mourir, vous ne mourrez pas. Il s'accroche des mots de Ève, des mots de la femme, et il reprend son offensive contre les paroles de Dieu. L'avalanche d'accuses à l'encontre du Créateur se heurte dans la tête de la femme et du lecteur du souci disant, pardon, du soi disant souci d'Elohim, celui de voir les premiers humains comme lui. Et le serpent joue avec la femme en modifiant la réalité par des projections illusoires et par le fait qu'il dit partiellement la vérité. Mais la vérité, qui est connaître le bien et le mal, suit la tentation, celle d'être comme Elohim. La femme accepte donc de réfléchir uniquement sur le désir, mais pas aussi sur la responsabilité et le changement. C'est pour ça que l'homme et la femme mangent. Et on dit que dans le texte hébreu que la femme était, ou que l'homme était avec la femme. Il était en association, ensemble. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'harmonie entre l'homme et la femme au niveau de la décision de manger. C'est Imma montre que l'homme a pleinement choisi et a fait la même chose. La transgression du commandement divin se produit après que le serpent ait introduit d'abord la semence du doute et même de l'insulte d'Adonai Elohim par la construction de l'impression que, par son commandement, Adonai Elohim chercherait à tenir à l'écart d'éventuels concurrents. Et ensuite, après qu'Ève constate que l'arbre n'est pas le fruit de celui-ci, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, présente trois qualités. Au verset 6, et la femme vit que bien, l'arbre, donc bien était l'arbre, on peut dire en français, on ajoute le verbe, donc bien était l'arbre pour manger. Donc maintenant, la femme, elle voit tout l'arbre, pas juste le fruit. Bien entendu, en passant, il ne s'agit pas d'une pomme, hein, bien entendu, donc, mais bon, parfois il faut mentionner cela. Donc elle voit l'arbre, et c'est après avoir vu l'arbre qu'elle désire l'arbre pour les yeux et qu'elle convoite l'arbre pour devenir intelligent. Et c'est à ce moment-là qu'elle va prendre le fruit et elle mangea. Elle et son homme qui étaient avec elle. Donc on a les trois éléments. Il est bon à manger, beau à regarder et permet l'accès à l'intelligence ou à la compréhension. Le climax de cette action est construit d'une série de phrases qui commencent en hébreu par un vav consécutif. Et on a le verbe manger central dans toute cette économie narrative. Et une fois avoir mangé le fruit, la femme et l'homme, ils vont connaître la nudité et ils vont se coudre des ceintures à base de feuilles de figues. Le fait qu'Adam et Ève restent en vie laisse perplexe le lecteur et le pousse à conclure que le serpent avait raison. Adonai Elohim a laissé clairement entendre, selon Genèse 2, 17, que dès qu'ils mangeront de cet arbre, ils mourront. Est-ce qu'il a menti, de peur que les premiers humains soient comme nous? Toutefois, les conséquences de la transgression du commandement divin prouveront que Adonai Elohim avait raison, et que le serpent joue avec les nuances. Selon sa rhétorique, suite à la prise du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme et la femme sont devenus comme Elohim, seulement que, suite à l'ouverture des yeux, leur première action est de se couvrir, car ils se rendent compte qu'ils sont nus. Voici comme ceux-ci sont arrivés à une ressemblance, mais plutôt déviée, voire sarcastique, par le jeu de mots entre l'adjectif attribué au serpent par le narrateur en Genèse 3.1 et leur propre constat. Moi, j'avais traduit en Genèse 3.1 en français, j'avais dit que le serpent était astucieux ou nu, ou rusé, si vous voulez. Le serpent, on dit que c'était le plus haroun, le plus sage, le plus rusé de tous les animaux. Maintenant, Adam et Ève, ils savent qu'ils sont éroumim, ils sont nus. Donc il y a certainement un jeu de mots ici. Mais on peut le distinguer uniquement si on regarde ça en hébreu. Ça ne va pas en français. Alors, on a ce jeu de mots continue même avec en Genèse 3, 14. Parce que Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit. C'est Arour, le mot Arour. Il y a la sonorité qui joue. Et en Genèse 4, 17, on apprend que Caïn a construit une ville. En hébreu, on dit Ir. Ça laisse entendre que c'est un jeu de mots et que c'est là le problème. Donc tout a commencé par le serpent qui était rusé. La suite de leur action est présentée par le narrateur en inversant l'ordre des personnages, selon leur participation. Une fois le péché accompli par Adam et Ève, Adonai Elohim s'avance à la rencontre de l'homme par la parole. La fameuse question « Où es-tu ?»« Où es-tu Adam ?» Ça se trouve dans le texte grec, mais dans le texte hébreu, on n'a pas le prénom Adam, donc on dit « Où es-tu ?» expose la préoccupation évidente du Créateur pour ses créatures. Il ne s'agit pas d'une simple question, mais plutôt d'une invitation et aussi d'un constat. Si sur l'aspect rhétorique, cette question invite l'homme à se resituer, sur l'aspect ontologique, elle signale à l'homme qu'il ne se trouve plus dans le même état qu'auparavant, celui de la communication et du partage. La réaction du Créateur n'implique pas un jugement ou un reproche, mais elle est une incitation à l'autoconnaissance et à la sagesse, d'autant plus que maintenant leurs yeux sont ouverts et ils sont devenus comme des dieux, comme des Elohim. Genèse 3.5. Sa question est un appel à la sainteté, dans le sens de retour au paradis. J'ai utilisé le mot sainteté, et lequel on ne l'a pas dans le texte biblique, mais on comprend ici la sainteté comme le retour au paradis. Donc sa question est un appel à la sainteté par le repenti. Et je propose qu'il s'agit ici du premier temps de la pédagogie divine, et celui-ci vise le retour de l'homme de l'état d'erreur, de péché. Alors, en hébreu, on a le mot chata, le verbe chata, qu'on a traduit en grec par amartano. Et en grec, ça signifie, et en hébreu, ça signifie manquer de but, se tromper, se perdre, erreur, et via la Septante le mot péché. De mon point de vue, lorsqu'on parle ici de péché, c'est plutôt dans le sens qu'on a manqué la cible. Donc, si tu rates la cible, en fait, tu te trompes de chemin. Ce que nous allons retrouver dans la littérature chrétienne des premiers siècles, où on a le chemin de la mort et le chemin de la vie. Il n'y a pas. Si tu es trompé de cible, mais, il n'y a pas d'autre variante que la mort ou la vie. Adam répond à Adonai Elohim, mais d'une manière inattendue. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ainsi, la première réaction d'Adam est de relater les conséquences de son acte, que son acte provoque en lui. Il a peur, il est nu et pour cela il s'est caché. La peur n'est pas seulement le résultat du fait qu'il est nu, mais aussi parce qu'il vient d'entendre la voix d'Adonai Elohim. Adonai Elohim, il fait des venants et des allées dans le jardin, donc des allants et venants au vent du jour. La Septante a traduit dans la fraîcheur du soir. Peu importe comment on voit ici, en fait, ce qui est, à mon avis, qui est intéressant de retenir, c'est que Dieu, il fait des allants et des venants, c'est-à-dire qu'il laisse le temps aux premiers humains à se rendre compte où ils sont et qu'est-ce qu'ils ont fait. Sauf que eux, ils réagissent pas et ils disent rien en fait. C'est toujours Dieu qui doit s'adresser en premier. La nudité signale au lecteur que l'humain se comprend autrement qu'auparavant. S'il est nu, se demande le lecteur, alors quelque chose le couvrait ou le protégeait auparavant, non? Devant la réaction insuffisante d'Adam, le lecteur se demande alors, Adonai Elohim, pardon, continue le processus de la pédagogie du repentir par une nouvelle question. Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que de l'arbre duquel je t'ai ordonné de ne pas manger, de celui-là tu as mangé? Il y a des chercheurs qui pensent que lorsque Dieu, qu'Adonai Elohim appelle Adam, il s'agit d'une question qui introduit un procès. Et donc Dieu appelle en procès Adam. Un chercheur, mais qui date de, ça fait 100 ans, hein, qui a travaillé, Delitzsch propose que Dieu, le Créateur, était celui qui cherchait Adam et Ève dans sa qualité de Dieu, le Rédempteur, celui qui cherche, celui qui est perdu, qui s'est perdu. Et la question « Où es-tu? » c'est une question rhétorique. Comme ça l'avait comprise aussi le Targum pseudo-Jonathan, ou Targum Néophyti, Saint Justin le martyr et le philosophe, et d'autres chercheurs modernes. Mais pas tout le monde est d'accord que c'est Dieu en tant que rédempteur qui s'adresse à Adam. Cette fois-ci, pour que Adam réagisse et comprenne l'état dans lequel il se trouve suite au péché, Adonai Elohim s'avance dans les détails. Par une question, un verset d'ailleurs, il provoque Adam à réfléchir sur son constat qu'il est nu. Autrement dit, Adonai Elohim pousse Adam à s'interroger sur la manière dont il a appris qu'il est nu, donc ceci qui a provoqué ce changement. La deuxième réaction d'Adam est décevante et démontre la stérilité de l'effort divin, car au lieu de confesser son erreur, il renvoie la responsabilité de son échec à la femme et indirectement à Adonai Elohim. La femme comprend la question d'Adonai Elohim dans le sens « Pourquoi as-tu fait cela? » car elle explique la manière dont le serpent a trompé. Tant Adam et Ève reconnaissent leur acte, mais ils ne veulent pas endosser la responsabilité. Ainsi, ils cherchent à faire porter l'un à l'autre la faute. vu la réaction des premiers humains, Adonai Elohim entend les responsabiliser en leur expliquant sous la forme d'une punition, si on peut dire comme ça, les nouvelles réalités engendrées par leur action. Ainsi, Adam est appelé à l'effort physique prolongé et fatigant de l'obtention des fruits de la terre, lui qui a convoité le fruit d'un arbre spécial devra travailler péniblement pour obtenir les fruits de tous les arbres auxquels auparavant il avait accès illimité. En d'autres mots, dorénavant, la terre qui lui avait été donnée pour qu'il la maîtrise lui sera contraire, car il a négligé le commandement divin en prenant de force et sous l'emprise du désir de possession ce que lui était destiné à travers l'obéissance. Adam devra dorénavant travailler la terre, Hadama. Et cette décision divine ne constitue pas le châtiment proprement dit, en fait. La souffrance d'Adam réside en fait qu'il devra faire cela en attendant, après un pénible travail physique, des fruits d'une terre maudite. Sauf que pardon, et réaliser cette action cyclique tout au long de sa vie. En même temps, les mots du serpent se voient infirmés par l'expression tout au long de tes jours. Il signale au lecteur et à Adam que son existence est limitée dans le temps. La pénibilité de son travail épuisant sera achevée par la mort physique qui accompagnera cette cyclicité. La punition d'Adam est largement présentée par le narrateur, ce qui indique l'accent mis par Adonai Elohim. Le verbe manger est présenté à 5 reprises dans la punition de Adonai et il comporte aussi le rôle de rappel quant aux moyens par lesquels la chute est intervenue. Adam et Ève tombent parce qu'ils ont mangé, justement. C'est pour ça que Dieu punit Adam par la pénibilité de réussir à pouvoir manger, en fait. Ève, quant à elle, mettra au monde à travers la douleur parce qu'elle a trouvé que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Un jeu de mots ressort quant au premier aspect de la punition d'Ève, la souffrance, itzbonek, et la suite de la désobéissance, du commandement de ne pas manger de l'arbre, haetz, et devient ainsi la cause du drame. Donc, on a la musicalité des lettres, des mots, qui montrent que, en tout cas pour l'auteur hébreu, si la femme a souhaité de manger de l'arbre, Haetz, ce souhait va être suivi par la souffrance. Itzbonek. De plus, elle sera soumise à son mari à travers le désir. On peut imaginer qu'il s'agit de désir, que ce désir il ne s'agit pas d'un désir au niveau d'une attraction physique, mais bon, on ne va pas discuter, c'est pas le moment pour tout expliquer. Ce que je souhaiterais vous rappeler, c'est que un élément très intéressant que moi je me suis rendu compte en analysant ce chapitre, c'est que Dieu donne à Adam et Ève le droit de manger de tous les arbres du jardin, y compris, ce qui est intéressant, y compris de celui de vie, de la vie. L'arbre de vie fait partie, en fait, des arbres, entre guillemets, permis. Et du coup, on comprend mieux pourquoi, à la fin du chapitre 3, Dieu dit, Voici, l'humain était comme un de nous pour connaître bien et mal. Et maintenant, de peur qu'il envoie sa main et prenne aussi de l'arbre de la vie et qu'il mange, il pourra vivre à jamais. C'est à ce moment-là, en fait, que on dit que Adonai Elohim renvoie ou chasse ou met dehors du jardin d'Éden l'homme pour travailler l'humus, hein, la terre d'où il avait été pris. Et que, après avoir chassé l'humain, il posta à l'orient du jardin d'Éden les kérubims, et on parle d'une flamme, de l'épée tournoyante. On imagine une sorte de, selon le texte biblique, d'une épée qui tourne comme ça. Une épée, celle-ci est faite de flammes de feu. Mais il ne s'agit pas de chérubim, ce n'est pas les chérubins qui gardent le chemin en soi. En sens que ce n'est pas eux qui ont l'épée dans leurs mains. Dieu donne la permission de manger de l'arbre de la vie. Mais en fait, c'est l'humain qui n'a pas choisi de manger de cet arbre-là. Et en faisant cela, il aurait pu avoir la vie éternelle. Et en fait, c'était, je pense, le but pour les humains de justement de manger en écoutant le commandement de Dieu, mais en fait qui est très positif. Il dit tu peux manger tous les arbres, mais pas celui-là qui va te provoquer ta mort. Mais celui qui donne la vie, on l'a nommé déjà avant, et qui se trouve au milieu du jardin, donc entre guillemets, on ne peut pas se tromper. Alors, il y a un jardin, mais ça se trouve au milieu, donc quoi que tu fasses, là où tu vas, je sais pas, donc tu arriveras au milieu du jardin, donc tu vas voir cet arbre-là, et tu vas manger de cet arbre-là, et tu vas vivre pour toujours. C'est pour ça que Dieu ne veut pas laisser l'homme manger de cet arbre, en fait. Parce qu'il a mangé, mais il n'a pas suivi l'ordre du manger. C'était un manger qui aurait pu donner la vie pour toujours, mais l'homme... Et aussi, faites attention et voyez que Dieu ne se fâche pas sur Adam et Ève et il ne les punit pas tout de suite. On parle du renvoi, on parle du fait de chasser l'humain à peine au verset 23 et 24. Mais Dieu, en fait, il fait cela très tard et comme je vous ai dit, il y a la pédagogie divine qui comporte trois temps. D'abord, il invite l'homme à se rendre compte des conséquences de sa faute. Il dit, où es-tu? On peut voir autrement cette phrase-là. Où es-tu par rapport à moi? Où es-tu par rapport au jardin? Où es-tu par rapport aux animaux? Où es-tu par rapport à l'hiver? Donc, cette question, c'est une question plutôt bienveillante qui invite l'homme à se repositionner, à se rendre compte qu'est-ce qui lui manque. Parce que s'il était nu, s'il est devenu nu, il y avait quelque chose qui le couvrait. Et bien entendu, on ne parle pas ici de vêtements dans le sens stricto sensu, mais c'est juste, on parle ici d'une énergie, j'imagine, on peut imaginer. Bon, je suis dans un autre degré d'interprétation, mais on peut imaginer une énergie qui n'est présente, qui fait en sorte que Adam et Ève se sentent maintenant nus et qu'ils ont le sentiment de honte. Deuxièmement, Dieu provoque chez l'humain un examen critique de ses actes. Bien entendu, dans notre cas ici, Adam et Ève n'ont pas répondu comme il fallait. Car au lieu d'expliquer ce qui s'est passé, ils vont se rejeter la faute, ce qui va faire que le deuxième temps de la pédagogie de Dieu échoue aussi. Et enfin, le troisième point, c'est la responsabilisation. Parce que toi, tu as fait cela, tu devrais travailler la terre. Parce que tu as fait cela en essayant d'être comme moi, tu vas devoir travailler la terre pour avoir les fruits. Dorénavant, c'est à toi d'obtenir les fruits. Parce qu'en fait, si vous voulez voir, cette entre guillemets, punition d'Adam, c'est normal d'ailleurs. Adam voulait être comme Dieu. Donc Dieu a le pouvoir de créer des arbres qui donnent des fruits. Mais l'homme, instinct dû en renversé, il n'a pas le pouvoir de créer comme Dieu les fruits. Donc il doit travailler. Et c'est un travail très difficile. Le mot pénible, ça ne veut pas dire vraiment que c'est quelque chose de négatif dans le sens qu'on se moque de quelqu'un ou c'est un travail honteux. Mais c'est la pénibilité, c'est dans le sens qu'il faut beaucoup travailler pour un peu de résultat. Et Adam devra beaucoup travailler pour être comme Dieu, comme Elohim, pour avoir des fruits. Et la même chose se passe avec Ève. En fait, Ève, quand elle va donner naissance à un enfant, elle est dans l'optique de la création. Elle crée quelque chose. Un nouvel être arrive sur la terre et elle se voit dans une sorte d'optique de créatrice. Mais pour qu'elle arrive à créer, il faut de la douleur, il faut de l'effort, la pénibilité travail de la femme d'accoucher. En quelque sorte, Adam et Ève, ils sont devenus comme Elohim, finalement. Donc ici, le serpent avait raison. Vous allez être comme Elohim. Sauf que c'est pas vraiment l'Elohim que eux, ils souhaitaient ou eux, ils pensaient qu'ils allaient être. Donc, avec tout l'effort divin, et même s'il y a eu la reconnaissance quand même du mal réalisé, Adam et Ève ne choisissent pas le repenti. D'où la nécessité de supporter les conséquences de la chute. En fait, comme Adam et Ève, ils ont compris qu'ils allaient être comme ça, maintenant ils doivent supporter tout ça à eux. C'est à eux d'avoir cette responsabilité. Et c'est pour ça que Dieu les protège. C'est lui qui leur fait des tuniques de peau. Il va les habiller. Parce qu'il sait qu'ils sont nus, donc ils ont perdu quelque chose. Et ils ne savent pas vivre dans le nouveau décor qui va être la vie en dehors du paradis, de l'Éden. On voyait aussi. Donc en fait, Dieu n'est pas du tout dans la posture où il punit quelqu'un, où il fait du mal à Adam et Ève, où il fait en sorte que l'humanité porte un fardeau et que tout c'est très difficile. C'est les conséquences de la faute de nos ancêtres qui font que nous portons maintenant le père de Mytho Staniloae. D'ailleurs, il a écrit un article à ce sujet-là, un article très difficile à comprendre, où il aborde en fait la question, est-ce que les petits-enfants d'Adam et Ève, est-ce que nous portons et comment nous portons la faute de nos ancêtres? Parce que nous n'avons pas fait cette faute. Et pourquoi est-ce que nous sommes soumis à porter les conséquences? Et finalement, nous ne sommes pas coupables en soi du péché, de la faute d'Adam et Ève. Mais nous avons, dans l'humanité, en fait, toute l'humanité a été touché par ce manque de repentir. Et du coup, les suites de la faute d'Adam et Ève se répercutent dans chaque génération, en fait. Et c'est pour ça que l'arrivée de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, a fait en sorte que nous avons brisé cette cyclicité empoisonnante, si vous voulez, et que même si nous sommes encore soumis aux conséquences physiques de ce qui s'est passé, nous sommes appelés à dépasser notre condition et nous avons les moyens pour dépasser notre condition. Je parle ici des mystères de l'Église et comme nous avons célébré hier à l'Église, nous avons la Sainte Croix. La Sainte Croix, même dans le texte biblique, texte liturgique, pardon, spécifique, on dit que c'est l'arbre de vie. Et on va tous, et on fait ça, on veut cueillir les fruits de cet arbre qui est la croix pour pouvoir arriver à la résurrection de Jésus. En ce qui concerne le deuxième épisode, Caïn et Abel, on nous dit en Genèse 4, versets 1 à 2, que Caïn est un gain. Donc, Caïn, il s'appelle en hébreu Caïn, et le gain pour Ève, c'est Caïnéti. Le narrateur nous informe qu'Adam connaît sa femme, Yada, comme s'il détenait un pouvoir sur elle, exactement comme avait suggéré le serpent en Genèse 3.5. Vous allez connaître. Yodéa. Yodéi. En agissant ainsi, il accomplit de manière pervertie ce que le narrateur avait mentionné en Genèse 2.24, qu'ils seront tous les deux une seule et même chair. Le fait qu'Ève est connue par son mari indique le désir de celui-ci de la posséder comme un Elohim. Donc, Ève fait figure d'objet possédé, d'autant plus que rarement le verbe yada est employé en hébreu pour désigner les rapports conjugaux. On a quelques exemples, mais je vais en passer, parce que l'heure avance. Donc, en Genèse 4, tout commence dans un contexte de violence. Ève, victime de la violence de son époux, souhaite à son tour prendre sa revanche en disant « J'ai obtenu ou j'ai gagné Caïnéti, un homme avec Adonai. » En agissant de la sorte, elle éloigne en quelque sorte son partenaire puisqu'elle nomme, c'est elle qui nomme sa progéniture. Donc, du point de vue d'Ève, son enfant est un gain, c'est à elle. Et en disant cela, il va exclure son mari. En faisant cela, Ève aussi, elle veut avoir cette qualité d'Adonai et de créateur. Donc, Caïn va naître dans un contexte de jalousie, de désir, de pouvoir, de rivalité. En fait, ce sont les semences du diable, du serpent, desquelles se nourrit la violence. En passant vite, on dit que Ève donna naissance aussi à Abel, son frère. Point. Pas plus. Comme quoi, il n'est pas vraiment le fils de ses parents. Le mot Abel signifie en Ecclésiaste 1, verset 1, vanité, fumée. Et on peut avoir un jeu de mots au niveau du nom d'Abel, permis par la paronymie entre Hevel, qui est le souffle ou brume de matin, et Abel, deuil. Et cette paronymie peut inviter le lecteur avisé à considérer qu'Adonai cherche à équilibrer la possessivité d'Ève et l'indifférence d'Adam. Caïn est obtenu avec Adonai, ce que dit Ève, mais pas avec Adam. Et c'est juste ici que réside la différence au niveau du comportement d'Ève. En quelque sorte, elle est frustrée par cette impossibilité d'échapper au désir par rapport à Adam, et se fait une joie d'avoir pu obtenir un enfant avec l'aide d'Adonai. Alors, peut-être, Caïn, il est jaloux de l'arrivée de son frère. C'est un nouvel homme. Il n'est plus le chouchou de la maman. On a, je pense, ici, et je suis la proposition d'André Wenin ici, que Caïn vit une situation assez difficile et que le narrateur nous offre deux clés de lecture où on voit que Caïn, quand même, il comporte quand même les stigmates ou la qualité de victime. Comme vous le savez très bien, on va avoir un sacrifice ou un don, mais Caïn, il va se positionné aussi comme victime parce que on le regard de Dieu pour le don d'Abel va être compris par quelqu'un comme une injustice peut-être. Alors, le vécu, les sentiments qui traversent le cœur de Caïn sont illustrés par les paroles divines qui disent: Pourquoi cela a-t-il brûlé en toi? Et pourquoi sont-elles tombées tes regards? Les paroles d'Adonai décrivent bien l'irritation que ressent Caïn et une sorte de brûlure intérieure qui le rend incapable de voir face à face. Et donc c'est pour ça que son regard est à terre, et par terre, et il ne sait plus voir son frère ici. Peut-être parce qu'il n'a connu qu'une relation exclusive avec sa maman, avec sa mère. À ce point de la narration, Caïn se trouve devant le désir et la jalousie, et peut-être tout ça est mélangé avec le sentiment de la possession, ce qui fait qu'il est empêché de voir la joie de la communication, de la communion. Donc la jalousie de Caïn, peut-être, est là comme source l'injustice d'auparavant, mais Adonai l'appelle. Il comprend la souffrance de Caïn. Il ne veut pas le laisser seul et il le soutient. Il communique avec lui dans le but de l'aider à sortir de sa souffrance. Et donc Adonai lui propose d'exprimer les raisons de sa colère. Il lui donne la possibilité de devenir un homme libre, indépendant, et d'avoir une relation fraternelle avec son frère, Abel. Alors Adonai lui propose de faire le bien, ou de ne pas faire le bien, en Genèse 4:7. Mais en tout cas, il lui dit que s'il va choisir le bien, ça va être positif pour lui. Par rapport à ses parents, Caïn, quand même, il a la possibilité d'entendre le conseil de Dieu avant de faire le mal. Ce que ses parents n'ont pas eu quand même. Les mots attribués à Adonai par le narrateur, Genèse chapitre 4, versets 6 à 7, ne sont pas simples à comprendre, en tout cas à première vue. Toutefois, ceux-ci s'avèrent être libérateurs, qui sont compris dans le contexte général du récit. Adonai respecte les décisions de l'homme, même si parfois celles-ci sont incorrectes, et ne l'abandonne pas dans les moments critiques. Le lecteur est au courant du fait que ne pas faire le bien signifie d'être seul. Dans le contexte de haine et de ressentiment que vit Caïn, Adonai s'approche de celui qui se sent peut-être incompris. Alors la question que le lecteur se pose, est-ce que Caïn va dépasser cette crise? Est-ce qu'il va devenir un homme libre? Et en faisant cela, il va atteindre la ressemblance avec Adonai, avec Elohim. En Genèse 4, 7, Adonai propose à Caïn, n'est-ce pas si tu fais bien, tu relèveras, et si tu ne fais pas bien, élevé pour la porte ou l'échec ou le péché qui est tapis ou qui est accroupi devant toi, vers toi, et son désir, et tu domineras sur lui. Le verset est vraiment très difficile à traduire, mais il nous permet de voir que Dieu lui propose de dépasser le mal, le péché, qui est proposé comme image, soit comme un tapis, soit comme un animal qui est accroupi, un animal qui veut te sauter dessus, te mordre, te faire du mal. Caïn se voit proposer par Dieu de pardonner, de ne pas reprendre la faute de ses pères. Alors, dans la situation où Caïn choisi de ne pas donner suite à l'appel d'Adonai, il manquera sa cible. Dans l'arabe méridional et classique, Hata signifie se tromper de chemin, ne pas atteindre son but. Un sens qui est attesté en hébreu en Juges 20:16, Proverbes 8:35-36, Isaïe 65:20 et en deux lieux en Job. Quand Dieu propose à Caïn de résoudre le problème, Dieu lui dit quelque chose de très beau. C'est de se calmer, de faire le silence. Mais cela, nous ne voyons que dans la version en grec de ce texte. Alors, en Genèse 4 à 7, Dieu, c'est aussi un verset difficile à traduire, mais ce qu'on peut comprendre ici, il dit, Dieu demande à Caïn de rester silencieux. Il lui dit, c'est le verbe exact, la forme, c'est isichazon. Donc, c'est la première occurrence de ce mot où on appelle à faire, entre guillemets, de l'isichazme, hein, être dans le silence afin de pouvoir dépasser cette crise. Alors, Dieu, il propose à Caïn de refuser le mal et de vivre, si on prend les paroles de la Septante, de vivre cette situation de crise dans le silence. En choisissant le silence, le calme. En tant que lecteur, on attend de voir ce qui va se passer. Et le texte en hébreu dit, et il, c'est-à-dire Caïn, il dit, et Caïn, il dit, il s'adresse à son frère. À cet temps, on ajoute, et il dit, allez au champ. Mais le texte hébreu nous dit que Caïn dit à son frère, parla à son frère. Après, on passe tout de suite au meurtre. Le meurtre se passe loin, loin de leur habitation. Et c'est l'endroit où les hommes travaillent. C'est ce travail où ils peignent pour gagner leur existence. En quelque sorte, Caïn désacralise ce lieu de vie en le transformant en lieu de mort. Immédiatement après le meurtre, Adonai interpelle le meurtrier. Et une fois de plus, la pédagogie divine est remarquable. Adonai n'accuse pas et il ne fait pas de reproche, mais cherche le meurtrier en lui demandant « Où est ton frère Abel ?» Comme dans le cas d'Adam, Adonai invite Caïn à se situer lui-même dans le faux contexte, à se rendre compte de la nature de son existence maintenant que son frère n'existe plus. C'est-à-dire que pour Dieu, et ce que Dieu voulait montrer, l'existence de Caïn était liée à l'existence d'Abel. C'est pour ça que plus tard Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Mais par rapport à son père, Caïn répond avec violence et en laissant Adonai comprendre qu'il s'est trompé d'interlocuteur. Le meurtrier nie la mémoire même de sa victime. D'ailleurs, Caïn ne se cache pas comme ses parents, justement parce qu'il a souhaité éliminer son frère. Peut-être qu'il le voyait comme un rival. Ce désir de Caïn de connaître une relation exclusive avec Adonai se sous-entend aussi à travers ses paroles en Genèse 4:14. Voici, tu me chasses maintenant de cette terre, et de ta face je serai éloigné ou caché. À la réponse de Caïn, est-ce que je suis le gardien de mon frère, renvoie indirectement aussi bien à la tâche paradisiaque d'Adam de garder la terre, qu'à celle des séraphins de garder le chemin qui mène à l'arbre de la vie. Le verbe garder revêt une certaine importance dans la construction du sens. Il renvoie en effet indirectement à la responsabilité manquée dans le cas d'Adam et Ève et qui est en train d'être ratée dans le cas de Caïn. Cette responsabilité de garder le jardin et de veiller sur l'autre, mise en parallèle avec la responsabilité des séraphins de garder le chemin qui mène vers l'arbre de la vie, fait ressortir son but final, celui de la vie sans fin. En fait, Adam, les séraphins et Caïn ont en commun comme responsabilité de veiller sur la vie. Adam doit garder et travailler ce qui lui permet de vivre. Les séraphins gardent le chemin vers l'objet qui pourrait permettre à Adam de vivre et Caïn refuse. Ce qui peut lui rendre la vie, une vie hors de l'emprise de sa mère et de le désintéressement de son père. Inconsciemment, Caïn perd le qualificatif de gardien de son frère par cette question rhétorique. La réponse de Caïn à la question d'Adonai Elohim peut être paraphrasée « Suis-je le gardien du troupeau ?» d'Abel, c'est le gardien, celui qui garde le troupeau. En même temps, Adonai interroge le fils d'Adam où se trouve son frère. Autrement dit, dans quel état se trouve celui-ci maintenant qu'Abel n'est plus en vie? Si son père, le gardien du jardin qui abrite l'arbre de la vie, a été puni pour que la terre lui soit contraire, Caïn devint nomade pour que la vie lui soit contraire. Le déplacement incessant qu'il devra réaliser dorénavant est tout simplement la conséquence de son acte et du rejet de l'existence d'Abel. S'il n'est pas le gardien de son frère, c'est-à-dire de l'autrui, il ne peut rien faire d'autre que d'errer dans la recherche de ce que le faisait vivre. Après le serpent, Caïn est le deuxième être vivant à être maudit par Dieu. Pour Caïn, être maudit, c'est être arraché d'une terre déjà maudite, mais qui auparavant lui permettait d'exister. Devant la négation de la mémoire de la victime, Adonai passe à la deuxième étape de sa pédagogie, la provocation frontale par une question directe. Qu'as-tu fait ? De façon surprenante, cette accusation est formulée comme une question, ce qui ouvre au coupable un espace et un temps pour la remise en question. Vu la forme du discours d'Adonai, on dirait qu'ici, il se comporte comme un juge dans le cadre d'un procès. L'absence de tout sentiment de repentir ou de regret chez Caïn, compris ici comme l'absence de toute coopération ou réaction, est suivie par la troisième étape de la pédagogie divine, celle de la responsabilisation. L'agriculteur Caïn, par le sang, en hébreu c'est au pluriel, c'est le sang, par le sang d'Abel, qui de la terre crie justice, porte porte le signe de la mort dans la terre même qu'il cultivait, raison pour laquelle à chaque fois qu'il la labourera, celle-ci lui sera s'enfuie. Du coup, le sédentaire, Caïn, devient nomade. En quelque sorte, Caïn aussi meurt, car sa vie d'auparavant bascule et devient son retour. De l'expérience de Caïn, le lecteur apprend qu'en éliminant l'autre, on meurt aussi en quelque sorte. La décision prise par Adonai fait comprendre au potentiel meurtrier que l'attitude de Caïn doit être punie. Ainsi, par cette mesure, Quint, et par extension le lecteur, comprend la gravité des faits et aussi les conséquences irréparables et radicales pour la victime. L'action de Quint introduit dans l'humanité un nouvel élément, la peur d'être à son tour victime de la violence meurtrière. Quint sait Dorès est déjà que tout être humain est capable de tuer. C'est pour ça que, par son acte et sa peur, il introduit dans le monde la méfiance et la vengeance. Par le signe mis sur Quint, Adonai cherche à le protéger et aussi à décourager d'autres meurtriers en leur montrant le risque auquel ils s'exposent. En même temps, il explique que, en dépit de la dureté de la punition, il ne cherche pas la mort de personne, ni même celle d'un meurtrier. Il souhaite plutôt limiter la peur et protéger en restreignant la violence qui l'a déclenchée. Pourtant, le signe sur le front de Cain ne signifie pas qu'il ne sera pas tué, mais que celui qui le tuera sera puni cette fois. Du coup, Adonai vise deux problèmes. Il fait justice à la victime et cherche à décourager les potentiels meurtriers. En même temps, Dieu manifeste à nouveau sa miséricorde, même à travers la malédiction, en le protégeant de ceux qui pourraient répéter son acte. Est-ce que cette violence aurait pu être évitée? Il me semble que le narrateur raconte cette histoire afin d'avertir le lecteur que les racines de la violence, ses procédés détournés, ses conséquences sont fatales tant pour les victimes que pour celui qui amène la violence. Par rapport au processus de la pédagogie divine du premier épisode analysé, Adonai intervient avant que le péché soit commis, en invitant Cain à dominer le mal qui vient à lui. En même temps, les trois étapes de la pédagogie divine se retrouvent dans ce deuxième épisode narratif. Alors, on va passer au troisième exemple, et le dernier. Dans l'épisode de l'assassinat d'Uri, dans le livre 2 Samuel, chapitres 11 et 12, on peut voir un meurtre, mais aussi la repentance du roi David par l'intermédiaire d'un prophète qui s'appelle Nathan. Donc on apprend que le lecteur, pardon, on apprend que le roi David commet l'adultère avec une femme mariée et que, suite à une décision planifiée, le roi est à l'origine de la mort de l'époux de cette femme. Celui-ci était un soldat d'origine hittite et portait le nom Théophore Uri, c'est-à-dire Adonai est ma lumière. Suite à son acte, la femme tombe enceinte et lui fait savoir cela. David fait rentrer tout de suite le mari de la femme, qui était mobilisé contre les Ammonites et participait au siège de la ville de Rabba, et par deux fois essaye de le convaincre de passer la nuit chez lui. Devant le double refus du soldat Uri, le roi demande à son général de le faire périr de la main de l'ennemi. Toutefois, s'il n'y avait pas la réaction divine, cette affaire louche aurait tombé dans l'oubli. En effet, le récit continue par la présentation de la rencontre entre le prophète Nathan et David. Le prophète Nathan, il va raconter une parabole assez intéressante, qui est très intelligemment construite. Brièvement, il raconte qu'un homme très riche avait plusieurs animaux, qu'il avait un voisin qui était pauvre, mais qui avait un agneau il l'avait acheté, cet agneau, il la faisait vivre et il grandissait avec lui, avec chez lui et avec ses enfants. L'agneau mangeait de sa table. Elle buvait de sa coupe, elle dormait ensemble avec lui, dans son sein, et en plus elle était pour lui comme une fille. Des amis du riche arrivent en visite, et le riche se voit dans la situation de proposer à ses hôtes l'agneau de son voisin. dans la situation où il avait des moyens pour se permettre de les servir avec autre chose de plus grand, si on peut dire comme ça. Alors, je vous ai dit que cette parabole est intelligemment construite. Alors, lorsque le prophète relate la vie de la nielle, on dit qu'elle mange, boit, dort dans le sein de l'homme. En disant cela, le prophète rappelle finement à David, mot à mot, ce qu'il lui avait dit auparavant. En fait, ce qui se passe, l'affaire est louche à plusieurs niveaux, c'est que David fait rentrer le soldat qui était sur le front contre les Ammonites. Hein. L'armée israélite était engagée dans une guerre en terre ammonite. Et il fait venir le soldat Uri pour cacher le fait que Bethsabée était enceinte. Donc il voulait faire passer comme compère un autre homme, enfin le mari de cette femme finalement. Et donc Uri il répond à son roi, mais je ne peux pas entrer à la maison pour manger et pour boire et pour coucher avec mon épouse. Et tu dis, je ne peux pas faire ça parce que mais les autres soldats, mes collègues, sont sur le front et moi, je ne peux pas profiter de tant que la guerre n'est pas encore terminée. Par le fait qu'il explique la manière dont le riche de la parabole désireux de faire des économies, bon, c'est quel comble la situation, le riche veut faire des économies, même s'il reçoit des gens chez lui. Mais on dit qu'il a des troupeaux, quelques animaux autour de la maison. Mais il montre une certaine, entre guillemets, pitié par rapport à ses biens. Nathan, le prophète, il provoque le sarcasme et le désarroi du lecteur par rapport au geste du riche. Le lecteur est acquis du côté du pauvre et implicitement il sera plus sensible au geste incorrect de David d'avoir pris ce qui était cher aux yeux d'Uri, à savoir sa femme. Celui-ci n'avait qu'une femme, tandis que le roi détenait plusieurs concubines et épouses. Le climax de la description de Nathan, et elle était comme une fille pour lui, que Bath joue sous le nom de la femme d'Uri, Bathsheba. Donc le mot comme une fille, que Bath, renvoie au nom de Bathsheba. La réaction de David, en entendant cette injustice supposée réelle, hein, est tout à fait juste, voire trop. Ainsi, à son fait de justice, le roi qualifie le riche de fils de mort, autrement dit, quelqu'un qui mérite de mourir. Cette expression peut être comprise comme une décision légale applicable, ou comme une opinion publique dans cette situation où on dirait tous qu'il mériterait la mort pour ce qu'il avait fait. Lorsque David qualifie l'homme riche de la parabole de fils de mort, il s'auto-caractérise en fait. Et il décrit ce qu'il est, fils de mort. Auparavant, en 1 Samuel 20, 31, Saül décrira David comme fils de mort. La déclaration de David est en contraste avec ce qu'il affirme en 2 Samuel 12, 5, où il décrit Adonai comme le Dieu vivant. Ainsi, quand il demande sur la vie d'Adonai que cet homme soit fils de mort, David, sans se rendre compte, annonce de manière prolétique, la mort de l'enfant né de cette union. Et cette punition sera prononcée par Nathan au verset 14. Mais cette réaction de David est vraiment exagérée, même s'il réagit comme un juge. Il est excessif, étant donné que, à part le fait de réclamer aux riches de payer selon la loi, quatre fois le préjudice, hein, selon Exode 21-37, voire Luc aussi 19-8. La proposition, l'exclamation probablement rhétorique que le coupable soit tué, comme réparation pour le mal subi, n'a pas de base légale. Plutôt, il cherche à se réhabiliter à ses propres yeux et à rééquilibrer l'injustice d'hier avec une justice de trop aujourd'hui. Sans se rendre compte, dans son effort de poser comme un roi de justice, David s'auto-condamne et émet son propre jugement. Si pour le riche c'est excessif, alors pour David, il n'y a pas de parallèle. Du coup, c'est lui qui mérite cette condamnation. En effet, aussi précieuse que serait l'agneau pour le pauvre, le voleur, de point de vue légal, devrait difficilement être condamné à mort, tandis que l'adultère et le meurtre avaient des punitions spécifiques selon la loi de Moïse. Selon Exode 21-12, quiconque frappera l'autre et lui provoquera la mort, qu'il soit puni par la mort. Et en Lévitique 20-10, si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il fait l'adultère avec la femme de son proche, cet homme-là et la femme soient punis par la mort. Et aussi voir Deutéronome 22-22. En 2 Samuel 12-7, Nathan annonce rapidement que cet homme qui mérite la mort est David lui-même. À présent, David réalise que la situation juridique exposée par Nathan n'est rien d'autre qu'un artifice, une fiction. Tant au niveau des personnages de David qu'au niveau du lecteur, les événements produits sont révisés et réinterprétés. Le parallélisme des actions de David vis-à-vis d'Uri et du riche vis-à-vis du pauvre de la parabole apparaît. Les paroles de Nathan comportaient un double sens et elles servaient à souligner la cruauté de David et son essai de sauver les apparences. La fiction du prophète fait ressortir ce que David, le roi, voulait faire, oublier. Ainsi, la fiction de la parabole devient ainsi le véhicule idéal de la vérité. La pédagogie divine continue par un oracle qui commence par le rappel des bienfaits d'Adonai envers David. Cet oracle est suivi de l'accusation, ou mieux encore de la description claire de ce qui a été fait, et s'achève par la sentence. Nathan explique au roi qu'il a méprisé la parole d'Adonai et ajoute que si le péché était réalisé en secret, la punition sera publique. Pour certains auteurs, le fait que l'assassinat d'Uri est mentionné à deux reprises dans l'accusation de Nathan, tandis que l'adultère une seule fois, comporte une certaine signification. On pourrait penser que Adonai cherche à punir le meurtre sans donner trop d'importance à l'adultère. Toutefois, un regard attentif sur le contenu de la punition annoncée par Adonai, par l'intermédiaire de Nathan, permet de comprendre que le narrateur n'insiste pas uniquement sur le meurtre, mais aussi sur le fait que David a pris la femme d'Uri pour faire d'elle sa femme, pour son propre plaisir démesuré. Tout comme le riche, qui tout en possédant d'autres animaux a pris ce qui faisait plaisir et bien aux pauvres et à sa famille, David a pris ce que faisait plaisir à Uri. La raison pour laquelle David fait venir Bathsheba chez lui est qu'il l'a vue en train de prendre son bain et qu'elle était belle. De plus, on observe qu'Adonai punit David, aussi pour le fait que, par son péché, il l'a méprisé. Ainsi, on se rend compte qu'il y a plutôt un triple reproche de la part d'Adonai. Le mépris, le meurtre et l'adultère. Au verset 9, Dieu dit « Tu as méprisé la parole d'Adonai, tu as frappé par l'épée, tu as pris sa femme pour toi et tu l'as tuée par l'épée. » Et au verset 10, « Tu m'as méprisé, tu as pris la femme pour toi. » L'assassinat tronqué, commandité par le roi, n'est rien d'autre qu'un essai d'étouffer l'affaire, étant donné que l'adultère risquait d'être connu à travers la grossesse de Bathsheba. En fait, David n'était pas pressé de prendre pour épouse Bathsheba avant qu'elle lui fasse savoir qu'elle était enceinte. C'est à ce moment-là que le roi propose à Uri de rentrer chez sa femme pour qu'il couche avec elle. Son plan vise donc que le temps passé par Uri avec sa femme, lors de cette inattendue et gracieusement accordée permission royale, elle sera même accompagnée d'un cadeau, en fait. soit considéré comme l'origine de la grossesse de Bethsabée. Mais puisqu'Ulysse s'entête, soit parce qu'il est un brave et idéaliste soldat, soit parce qu'il a compris ou a été informé des actions du roi de rester hors de sa maison, le roi ordonne à son général de tuer son propre soldat au moyen d'une ruse. On pourrait dire que dans un premier temps, le roi n'envisage pas le meurtre d'Uri, donc il ne cherche pas à garder Bethsabée pour lui, et que c'est par après, dans un deuxième temps, qu'il élabore un plan afin de se débarrasser physiquement d'Uri, parce que son essai de le faire rentrer chez lui, juste à temps pour qu'on puisse croire que l'enfant de Bethsabée, que Bethsabée porte dans son ventre et d'Uri, échoue à deux reprises. L'adultère de David aurait pu bien s'arrêter là, si Uri avait accepté la double proposition du roi. Du coup, le meurtre commandité par David se dessine comme un moyen, in extremis, d'éviter que l'affaire éclate au grand jour. Peut-être c'est pour cela aussi que David punit David publiquement. En même temps, David va faire venir Bathsheba dans son palais immédiatement après le deuil. Le temps pressé. Ce qui est normal, il risquait de se faire tuer quand même, hein, selon la loi. Donc, David admet le péché. Il ne s'excuse pas, en fait. Il admet publiquement qu'il a péché. En contraste avec Adam, Ève et Caïn, le roi David reconnaît qu'il a commis une erreur. Il dit: j'ai péché devant Adonai. Ce changement conduirait à la suite normale de la méthode divine du repentir, dans le sens que cette fois-ci, l'homme, confronté avec l'anamnèse de son erreur, reconnaît sa responsabilité. Pour ce mea culpa, David est épargné par Adonai, car il ne mettra plus en application les dispositions de la loi. Le pardon divin n'est pas sans importance, car David transgresse trois commandements du Décalogue. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Dans cette situation, le pardon du mal commis par David se dessine comme la prérogative exclusive d'Adonai d'effacer la faute d'un pécheur. Ici, le pardon est accordé une fois que le péché est compris et assumé par le fautif. Toutefois, David sera puni par la mort de son premier-né de Bethsabée. David avait déjà été averti par Nathan que le malheur sera amené dans sa maison. Sa confession amène à la réponse que pour ce meurtre, il ne mourra pas immédiatement, mais que la première punition dans sa maison sera la mort de son enfant, car il a permis aux autres de mépriser Adonai. Tout en étant difficilement acceptable pour le lecteur moderne, cette punition porte une empreinte pédagogique, notamment pour que d'autres voient aussi que Adonai connaît les péchés des hommes et qu'aucun péché ne reste caché et impuni. C'est une explication possible à cette situation, étant donné que ni David, ni le narrateur, ni les autres personnages ne s'insurgent contre Adonai. David accepte la punition d'Adonai et se met à jeûner. Il ne critique pas Adonai et dort la nuit par terre. Par son comportement, David demande à Adonai d'épargner l'enfant. Une fois mort celui-ci, David se lave et renonce à son action. Peut-être c'est une promesse, ce comportement de David, par lequel il pleure de manière anticipée la mort de l'enfant. Donc, la tentative de David d'éviter sa punition à travers son fils est très rationnelle. Rationnelle. Le fait que le roi pleure à l'avance la mort de l'enfant laisse entendre que celui-ci a une grande foi et de l'espérance qu'Adonai est miséricordieux, même avec les pécheurs comme lui. Il adopte un comportement de repentance dans l'espoir du pardon complet et l'annulation de la punition prévue. L'absence de toute rébellion ou essai de négociation verbale avec Adonai démontre le degré avancé de repentance que manifeste David. Immédiatement après l'annonce du décès, le narrateur précise que David se lave et se rend à la maison d'Adonai, où il se prosterne de façon liturgique. Même si le contenu de la prière n'est pas connu, le fait qu'on mentionne cette action invite à penser qu'il s'agit d'une réconciliation avec Adonai. En agissant de la sorte, le roi considère, pense, qu'il peut se voir laver de ses péchés. Le manque de toute réaction de la part du narrateur ou d'Adonai laisse entendre qu'aussi Adonai est d'accord et qu'il considère suffisant le geste de repentance de David. La preuve se trouve plus loin, en 2 Samuel 12, 25, dans le nom du deuxième enfant de David et de Bethsabée, Yedidah, qui signifie aimé par Adonai. Dans ce dernier cas aussi, on peut rencontrer avec quelques variations les trois tons de la pédagogie divine. Dans cet épisode, Adonai n'intervient pas avant le péché de David. Et une fois le péché commis, la première étape de l'autocompréhension n'est plus mise en place directement par Adonai, mais par un intermédiaire, un prophète. Par rapport aux deux premiers exemples, le pécheur reconnaît pleinement le mal qu'il a commis, ce qui signifie que, cette fois-ci, la méthode porte ses fruits. En guise de conclusion, il est possible d'évoquer l'existence dans l'Ancien Testament d'une approche divine spéciale quant aux relations pécheur-pénitent ou péché-pardon. Ainsi, là où le péché est perpétré, Adonai intervient afin de restaurer l'ordre et l'harmonie. Les trois exemples repris ici, il ressort qu'Adonai utilise la méthode de l'interrogation comme forme d'incitation aux ouvertures, au dialogue et à l'extériorisation. Dans le cas d'Adam, Ève et Caïn, elle est directe, tandis que chez David, elle est indirecte via un prophète. Ce moment mène de façon inhérente à la responsabilisation, autrement dit à la présentation du péché. Dans le cas de Caïn, Adonai intervient avant la mise en œuvre du mal. Cette variation s'explique par le fait que celui-ci souhaite aider Caïn, qui agit de la sorte à cause de la violence qu'il a subie de la part de ses parents. Dans le cas de David, la responsabilisation consiste à assumer la pédagogie divine de la repentance, qui sera suivie par le pardon. Face au rejet du dialogue, Adonai invite l'homme à assumer ses actes, en révélant ses actions. De façon inhérente, ce moment mène vers la responsabilisation qui, dans les trois cas, est suivie automatiquement par la punition. Par cette pédagogie à étapes, consciente et répétitive, Adonai cherche à apprendre l'homme à vivre en communauté et à limiter la violence entre les hommes. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre le contexte, le contenu des textes bibliques, textes qui ont été écrits pour nous transmettre une certaine théologie, pour nous provoquer une certaine réflexion. Et comme vous avez vu, là où tout a commencé, les Genèse 3 et Genèse 4, on peut comprendre Dieu est à côté de nous, Dieu est derrière nous, et que Dieu, parfois, il se met même devant nous, face à face, pour nous aider à sortir de la rage, à sortir de ce qui peut nous mener à la violence. Je m'arrête ici pour ce premier cours, et la fois prochaine, nous allons discuter, nous allons lire ensemble le chapitre 22 du livre de la Genèse. Il s'agit là du sacrifice d'Abraham. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.